14h, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Ici, on écoute, on observe de plus près le monde en mouvement. Et depuis la crise, des choses s'accélèrent. Vous êtes nombreux à construire le monde de demain et vous êtes au bon endroit pour nous présenter vos idées, vos initiatives. À mes côtés, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Bonjour Aurélien.
Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous.
Et notre coach de la semaine, Pierre Pesiardi. Bonjour Pierre.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes entrepreneur du numérique, cofondateur de l'initiative agricole La Ceinture Verte. Alors on le voit, hein, chaque jour dans la France bouge, il y a ceux qui osent, ceux qui ont l'audace de se lancer, même si la période est compliquée. Au contraire, dans chaque crise, il y a des opportunités. Et on le voit comme vous. Bonjour Charlotte Clément-Sapé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de Préma et compagnie. Il s'agit d'un site internet qui regroupe tous les produits de l'univers du bébé prématuré et de sa famille. Le lancement est prévu pour en octobre, donc il est encore en cours de construction, comme on dit. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous allez nous donner envie d'aller vite regarder votre site dès qu'il sera mis en place. C'est parti, on va écouter votre pitch. Vous avez 1 minute 30.
Merci. Donc, Préma et compagnie, c'est une boutique en ligne effectivement spécialisée dans les besoins des bébés et des familles qui vivent des naissances prématurées. C'est un site que l'on a souhaité complet et accessible à tous, c'est-à-dire que l'on va y retrouver des produits issus de grandes marques, de marques populaires et aussi de marques dédiées puisque c'est notre cœur de métier. Pour faire court, nos catégories seront entre autres le dressing, la biberonnerie, l'allaitement maternel, les produits de soins, le nécessaire pour le couchage, en fait tout le nécessaire pour les bébés, que ce soit à l'hôpital, en hospitalisation à domicile et lors du retour à la maison. Il y aura effectivement une offre entièrement dédiée au confort des familles et notamment les besoins des mamans post-accouchement. Après, c'est important de noter, quand on parle de prématurité, qu'il y a un point fondamental, c'est le pot à pot. Il est essentiel à la survie des tout-mini. Là aussi, nous proposons une offre de produits qui est adaptée et conçue autour d'une méthode, la méthode kangourou, largement plébiscitée par les équipes. Donc on peut penser aussi que la prématurité n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, la prématurité peut toucher n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Nous avons imaginé du coup Préma et compagnie comme une solution complète face à un problème inédit dans la vie des parents et des proches qui savent généralement pas ce qu'ils peuvent acheter ou non et encore moins où trouver les produits. Donc la prématurité fait peur et c'est normal étant donné l'enjeu, mais ça peut être vécu autrement. À travers Préma et compagnie, nous allons faire le maximum en fait pour impulser une énergie positive dans une expérience souvent vécue de façon très traumatique. Nous voulons que les familles qui sont projetées dans la prématurité ne perdent pas leur temps en recherche inutile. Nous sommes passés par là, nous avons eu une petite Préma.
Voilà, merci en tout cas, merci pour votre pitch Charlotte. Vous le disiez, hein, la prématurité, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Vous avez été directement concernée puisque vous êtes la maman de deux enfants et dont l'une qui est née prématurée, elle est née à 7 mois. Et donc c'est de là qu'est venue votre idée, hein. Vous étiez en train de nous le raconter là à la fin de votre pitch.
Tout à fait. En fait, j'ai vécu deux grossesses. La première était à fort risque et finalement j'ai accouché à terme. La seconde était plus sereine et j'ai accouché à 7 mois de grossesse. C'est pour ça que je précise bien qu'on peut vivre une naissance prématurée, qu'on y soit prédisposé ou non, que ce soit envisagé et qu'il y ait une menace d'accouchement prématuré ou non. C'est important de noter qu'effectivement n'importe qui peut être touché et peu importe la grossesse que l'on mène.
Alors, je me tourne vers notre coach du jour, Pierre Pesiardi, qui vous pose une première question.
Bonjour Charlotte. Alors moi, bonjour. Je m'interroge, c'est une super idée, mais vous savez, Amazon, il a vendu des livres pendant longtemps avant de vendre plein de choses. Et moi, je me dis que vous voulez vendre donc en octobre, à l'automne, plein de produits, une gamme étendue. Est-ce qu'on ne pourrait pas vendre dès cet été, fort de votre communauté, parce que vous éditez un blog, donc vous avez une audience, quelques produits clés, phares, qui vous ont vraiment été utiles, vous voyez, et mettre ça sur ne pas développer un site web, enfin, utiliser une place de marché habituelle, faire une petite boutique en ligne, comme on peut le faire aujourd'hui.
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on avait pensé. Maintenant, notre format ne nous le permet pas forcément. Dans la mesure où on peut pas faire, par exemple, du dropshipping, c'est pas possible, puisqu'il y a un élément à prendre en considération, c'est l'urgence du besoin. Et aujourd'hui, on n'aurait pas le financement pour acheter un stock même limité. Donc on est obligé de maîtriser notre stock, de maîtriser notre chaîne de distribution de A à Z. C'est pour ça qu'on a des locaux qui sont prévus au 1er septembre. qu'on a tout envisagé pour effectivement démarrer dans de bonnes conditions et avec notre gamme complète.
Alors, vous avez déjà une page Facebook. Votre page cartonne beaucoup. Donc, vous êtes déjà en train de vous constituer une communauté, puisque je crois que vous comptez 1 million de vues à chaque fois, ce qui est déjà pas mal pour quelque chose qui est né il y a à peine quelques semaines.
Oui, effectivement. En fait, alors après, on a la chance aussi d'avoir aujourd'hui des partenaires qu'on est allé solliciter. Je pense à la CCI Nantes-Saint-Nazaire, je pense à la GFIP qui nous a accordé une subvention dans le cadre de la création d'entreprises par les personnes handicapées. Je pense à Initiative France. On a des gros réseaux qui nous accompagnent aujourd'hui et on a la chance aussi d'avoir un financement par le CIC. Et du coup, ça nous permet de communiquer aussi avec leurs réseaux à eux, puisqu'on les nomme et qu'on les cite. Donc, ça nous permet aussi d'accroître notre visibilité sur les réseaux. Et effectivement, à travers le blog, on avait déjà commencé à créer notre propre communauté, évidemment. Et ça nous permet effectivement de développer notre communication et d'avoir une visibilité avant même l'ouverture du site, sachant que le site, on a ouvert une page provisoire qui renvoie vers une campagne, puisqu'on mène en ce moment une campagne sur Tuzigo.
Sur Tuzigo, vous avez terminé la campagne Ulule, elle s'est finie, s'est terminée le 2 juin il y a un mois, et vous en avez recommencé une nouvelle encore pendant un mois sur Tuzigo, www.prema-e-compagnie-cie.com, hein, c'est ça?
Non, pas tout à fait, je me permets, excusez-moi, c'est Prema-CIE sur Tuzigo, puisqu'il ne prenait pas, le sigle E.
Ok.
Donc du coup, Aurélien, oui, on a fini.
Je crois qu'Aurélien Fleuroy a une question pour vous.
Oui, simplement pour savoir si vous aviez de la concurrence, entre guillemets, ou si c'était une démarche totalement inédite de réunir tout ce dont des parents ont besoin en ayant un enfant prématuré.
Alors effectivement, il existe des concurrents, mais pas, comme vous dites, en réunissant tous les produits.
Ouais.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des généralistes qu'on connaît tous, et puis il y a des plus spécialistes, mais ont une gamme très limitée. En général, ils vont se concentrer sur une catégorie de produits. Nous, ce qu'on veut, c'est justement, on est passé par là, on a perdu notre temps, on a perdu notre énergie à courir à droite, à gauche, chercher un produit chez une telle enseigne, attendre une livraison toute la journée, attendre une autre livraison le lendemain. Puis il y a ce caractère très urgent qui est très important et qui nécessite une livraison quasi du jour pour le lendemain, ce que nous, on est en mesure de proposer parce qu'on sait à quel point c'est important. Donc non, effectivement, il n'existe pas de concurrent qui regroupe tous les produits que nous, on propose.
Charlotte, on vous a bien entendu. On a compris quelle allait être la vitrine. Est-ce que vous alliez proposer à partir dans quelques mois sur votre site Prema et compagnie? Je me tourne vers Pierre. Pierre Aurélien, est-ce que vous êtes convaincu?
Moi, je n'ai pas été concerné par ça. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus distant pour moi. Mais je me doute bien que les problèmes auxquels ils sont confrontés, et ce qu'elles fabriquent, c'est, vous savez, ces boutiques en ligne, c'est pas que des boutiques, c'est des communautés, en fait. Et ce qui me semble très juste dans sa démarche, c'est qu'elle a déjà fabriqué la communauté d'entraide. Et donc, c'est à partir de ces conversations-là qu'on pourra convertir un certain nombre d'achats. Donc, je pense que c'est très bien parti.
Oui, je me mets à la place de jeunes parents qui pourraient être concernés. L'aspect gain de temps et puis gage de confiance qu'ils peuvent apporter.
Oui, parce que vous, c'est du vécu en
ça
plus.
Ça me semble effectivement très, très positif.
Bon, c'est opportun. Il y a un marché, on l'entend. Alors on vous souhaite bonne chance, Charlotte Clément-Sappé. Donnez-nous de vos nouvelles. Ça nous fait plaisir toujours à la France Bouge. Je rappelle le nom de votre futur site internet, Prema et compagnie, un site de e-commerce qui regroupe tous les produits de l'univers du bébé prématuré.
Europe 1.
Des bons d'achat pour aider les commerces à redémarrer leur activité, c'est la solution du jour qui sera portée par Aurélien Fleuroy. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de retrouver Aurélien Fleuroy pour la solution du jour. Aujourd'hui, Aurélien, vous aidez les commerces à redémarrer leur activité grâce à des bons d'achat. Et c'est un service qui s'appelle Retirez-bon.
Exactement, service qui a été lancé pour accompagner les commerçants à la sortie du confinement et qui a été imaginé par ADL Performance, une société spécialisée dans le data marketing, le marketing de données. L'idée de cette mécanique de bons d'achat démarre par la volonté d'une banque, d'un assureur ou d'une mutuelle par exemple, de proposer à ses clients commerçants de s'inscrire sur un site spécifique et ensuite d'envoyer par mail des bons d'achat aux clients de la banque en question ou de l'assureur ou de la mutuelle. Et donc cette idée, c'est vous qui l'avez eue. Bertrand Lorioz, bonjour.
Bonjour Aurélien.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez ADL Performance. Et donc cette démarche, ces bons d'achat, on comprend que cela s'inscrit dans une volonté de consommer local.
Exactement. Merci Aurélien de la présentation. Peut-être que je pourrais présenter en quelques mots ADL Performance. On est une société familiale, ce qui est assez atypique, qui a été créée par mon beau-père il y a presque 50 ans. Et maintenant, nous sommes 500 en France, en Espagne et au Portugal. Et donc, on aide les marques à travailler, on les aide à parler à leurs clients et on fait face, comme toutes les entreprises en France et tous les citoyens, à la problématique de l'après-confinement. L'après-confinement, les magasins ont fermé. On sait qu'il y a pratiquement 6 magasins sur 10 qui ont perdu les 3/4 de leur chiffre d'affaires pendant la période de confinement. Donc on est face à une situation qui est une situation d'urgence, dans le sens où si on n'agit pas, et quand je dis nous, ce n'est pas nous seulement ADL Performance, mais l'ensemble du monde économique, on va se retrouver avec des commerces qui ferment, des commerçants, des magasins, des restaurants, des coiffeurs qui ne pourront pas repartir. Et c'est en discutant avec nos clients, puisque nous accompagnons des grandes marques depuis presque 50 ans, qu'on a partagé avec eux toute cette problématique et on a imaginé avec une banque régionale ce principe de rebond, qui sont donc des bons d'achat qui sont distribués à des particuliers et qui sont ensuite utilisés chez les commerçants ou les restaurants qui sont eux-mêmes clients de la même banque au niveau local.
Donc c'est vraiment l'idée de faire un commerce local. Économie circulaire, et effectivement, région par région. Vous l'avez lancé il y a quelques jours. Quels sont les premiers retours ?
Alors, on l'a lancé effectivement il y a quelques jours. C'était une problématique typique du déconfinement. On a vraiment eu, par exemple, on a signé le premier contrat de ce type avec une banque régionale. Ça s'est fait mi-juin. Nous avons commencé, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais nous avons commencé à identifier quels sont les pros, les commerçants qui sont intéressés. Et en moins d'une semaine, puisqu'on a commencé à ouvrir la semaine dernière, on a déjà plusieurs centaines de commerçants, d'artisans, de restaurants, de coiffeurs qui se sont inscrits pour pouvoir bénéficier de bons d'achat. Et les premiers bons d'achat vont être envoyés aux alentours du week-end du 14 juillet. Donc on est vraiment au démarrage d'une offre.
Donc le client va recevoir un mail, on comprend que c'est ma banque, ma mutuelle, mon assureur qui me propose ce bon d'achat. Comment ça fonctionne ?
Exactement. En fait, c'est par exemple, prenons l'exemple d'une banque. Pour faire plus simple, c'est une banque régionale qui a à la fois des clients particuliers et des clients entreprises, des pros. Elle cherche à donner un peu de pouvoir d'achat et fidéliser ses clients particuliers. Et elle cherche, comme pratiquement tout le monde en France, à faire repartir les commerces et le magasin. Donc, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il s'adresse à ses clients pros en disant « Venez vous inscrire sur un site si vous êtes intéressé pour participer. » Évidemment, ils sont intéressés. Donc, ils s'inscrivent. Derrière, ce que fait la banque, c'est qu'elle envoie à ses clients particuliers à une occasion ou une autre. Ça peut être une fidélisation, ça peut être l'anniversaire de son client, ça peut être l'ouverture d'un compte, ça peut être le parrainage. Elle envoie par mail des bons d'achat qui sont sous forme de code. Quand vous cliquez, vous êtes un particulier, vous recevez ce mail, vous cliquez dessus, vous arrivez sur un site, vous indiquez votre lieu d'habitation ou le lieu où vous pouvez consommer et on vous propose une liste de commerçants ou encore une fois d'artisans qui se sont inscrits. Vous cliquez dessus et vous avez automatiquement par mail un bon d'achat qu'il ne vous reste plus qu'à utiliser chez le commerçant. Et quand le commerçant, il a son bon d'achat, ce qu'il fait simplement, c'est qu'il se fait payer. Donc, il va lui-même sur le site et c'est ADL Performance qui lui fait son virement. Évidemment, l'ensemble est financé par la banque.
Pierre Pézierdi a pas mal de questions à vous poser là, je vois.
Moi, je suis fasciné, je trouve ça très, 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 très malin. Et j'entrevois, mais je voulais vous demander, est-ce que vous avez cette idée ? Du coup, on peut même développer votre concept de manière affinitaire et communautaire. C'est-à-dire, à l'intérieur d'un grand groupe, se côtoient des clientèles qui n'ont rien à voir, des gens de droite, des gens de gauche, des gens écolos, des gens pas écolos. Et par exemple, une banque donc, pourrait faire quelque chose qui dit « mais souscrivez à mon épargne verte, solidaire, etc. » et gagner des points, enfin des euros, auprès de commerçants qui eux-mêmes sont dans une démarche écologique, etc. Et donc, elle fédère là, de manière non pas neutre, mais intelligente par rapport à leurs attributs partagés, ses clientèles et ses pros et particuliers sur une thématique.
Exactement, Pierre. C'est effectivement le type d'idée qu'on va pouvoir avoir. Là, on s'est lancé il y a quelques semaines. Et par rapport à ce que vous proposez, pour l'instant, on creuse l'idée du green, du vert, mais on a plutôt une idée sur l'acheter français. Dès septembre, on va pouvoir lancer une offre qui permettra d'avoir des bons d'achat de la même façon qui permettront d'acheter des produits français.
Tout type de boutique, il y a un secteur d'activité en particulier ?
Non, tout type de boutique. L'idée, dans notre idée de départ, c'est vraiment la localisation géographique. C'est vraiment du commerce local. Mais l'essentiel des gens qui se sont inscrits, mais encore une fois, ça a juste commencé.
C'est qui ?
Ce sont des restaurants, des coiffeurs, des instituts de beauté, des artisans.
Ils ont besoin de faire revenir du monde.
Ils ont besoin de faire revenir du monde. Ils ont besoin de faire savoir qu'ils existent. Ce qui est paradoxal, c'est qu'eux-mêmes sont dans une situation catastrophique. Et en parallèle de ça, quand on voit les enquêtes qui sont faites, les Français, il y a 8 Français sur 10 qui veulent acheter français. Il y a 6 Français sur 10 qui veulent acheter des produits dans un magasin local.
Mais il faut leur montrer où se trouve ce magasin. Et c'est là où vous intervenez.
Exactement. Et une fois que le client est entré dans le magasin et son bon d'achat, il va faire un achat. Mais ensuite, évidemment qu'il va revenir. Et c'est bien ça le but du jeu. Et c'est quelque chose qui est urgent. En fait, la vraie force de notre système, ça paraît que c'est assez compliqué à monter. La réalité, on avait déjà toutes les briques, puisqu'on fait déjà des programmes de fidélisation. On travaille déjà avec les banques et les assurances depuis des dizaines d'années. Donc nous, ça ne nous a pris que quelques semaines. Derrière, pour une banque qui décide de lancer cette offre, il y en a pour 2 ou 3 semaines, parce que nous nous occupons de tout. Et pour l'instant, on a travaillé avec les banques, les assurances, mais on est en train de discuter, on est en contact avec des collectivités locales. Parce qu'évidemment, une collectivité locale a également sur son territoire des pros et des particuliers.
Ça s'appelle Retirez-bon, Rebond. C'est une solution d'ADLP Performance. Merci à vous, Bertrand Lorient.
Bravo. Merci Elisabeth, merci Aurélien, merci Pierre.
Europe 1.
Qui dit vacances, ça commence ce soir hein, officiellement, dit peut-être expérience nouvelle. Alors, pourquoi ne pas tenter un hébergement insolite ? C'est le dossier du jour et on en parle dans La France Bouge. À tout de suite.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Et nous entamons notre dossier du jour avec les hébergements insolites. Oui, parce que les vacances d'été démarrent officiellement aujourd'hui. Alors, qui dit vacances d'été dit peut-être expérience nouvelle. Et pourquoi ne pas tenter un hébergement insolite ? Imaginez un chantier naval qui transforme des voiliers et des vedettes de plaisance qui sont hors d'usage en gîte pour des particuliers ou tout simplement en hébergement insolite pour l'hôtellerie de plein air. Ça vous tente, Pierre, Aurélien ?
Là, je suis partant.
Ouais.
J'ai envie
Pierre,
de savoir un petit peu plus, mais je suis quand même partant.
Surtout avec les enfants, c'est le genre de truc qui anime les enfants.
Et bien ouais, justement, alors on va découvrir parce que ça existe grâce à vous. Bonjour Didier Toquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur et le président de Batho, B-A-T-H-O, accent circonflexe. Vous êtes situé au sud de Nantes et votre concept existe depuis 2 ans. Vous êtes parti, vous, du constat qu'il y a 1 million de bateaux de plaisance qui sont immatriculés, 80% des parcs de plaisance qui ont plus de 40 ans et l'âge moyen des propriétaires de bateaux est en train de vieillir. Quoi. L'âge moyen, je crois qu'il est de 50 ans.
Plus de 65
ans. Et le problème, c'est qu'on en fait quoi hein, de ces bateaux ? Et vous avez trouvé cette solution. Racontez-nous.
Alors effectivement, on ne sait pas quoi faire des bateaux qui ont été construits en polyester à partir de la fin des années 60. Les voiliers qu'on utilise, nous, c'est des voiliers des années 60, 70, 80, qui sont la période entre le yachting et le bateau pour tous. Donc, c'est des bateaux de légende qui ont écrit les belles pages de l'histoire de nos chantiers de naval, dont certains sont devenus des leaders mondiaux, et de nos grands navigateurs. Et aujourd'hui, ces bateaux-là, on ne sait pas quoi faire des coques et des ponts. Les seules techniques qu'on a pour s'en débarrasser, c'est de les mettre en décharge ou en incinération, qui sont des procédés nécessaires, mais coûteux et à fort impact sur l'environnement. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de les réemployer pour d'autres usages que la navigation. On appelle ça l'économie circulaire de la prolongation de la durée de vie d'un objet. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Pays de Loire et qu'on va essayer de développer sur d'autres régions.
Mais alors, il est comment ce bateau ? Faites-nous rêver là.
Alors, déjà, je vous disais que c'était des bateaux de légende. Ouais. Vraiment, c'est vrai. C'est les voiliers souvent, plus que les vedettes, parce qu'ils étaient encore plus beaux. En fait, on les prend, on enlève les quilles, on refait tout, en gardant tous les accessoires pour pouvoir reproduire l'idée de la navigation, les winches, etc. On raccourcit un peu les mâts, on met tout autour du bateau des pontons et une terrasse, comme s'il était amarré à son dernier port sur terre ferme, mais quand même.
Bon, il y a un beau paysage en face. Quand
et finalement je vais vous dire, c'est un beau paysage, mais ça change tout. Au bord de l'eau, en ce moment, on nous demande d'en mettre un dans une montagne. Mais vous pouvez naviguer, effectivement, dans les grands univers de la montagne. Tout à l'heure, on se disait qu'on pourrait en mettre un sur le toit du studio d'Europe 1.
Parce qu'on fait aussi des salles de réunion. On fait des salles. Sans le mal de mer,
mais oui,
formidable.
Alors, sans le mal de mer. Ouais. Mais pour vivre quand même une réunion comme un équipage. Et je trouve qu'il y a une ambiance dans vos studios qui est un peu la même.
Ouais, on a comme des petits hublots d'ailleurs dans le studio.
Et on a conçu des bateaux salles de réunion d'entreprise pour ça, en partant du principe que plus une salle de réunion était inspirante, plus elle était productive et qu'elle permettait de se dépasser. Et on a installé la première près d'Angers il n'y a pas longtemps. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'univers qu'on peut attraper avec ces bateaux.
Donc, pour la description, il y a les ponts. Hein,
alors, il y a le ponton, la terrasse, et le tout donne finalement une espèce de suite d'hôtel.
Ah, on peut les voir sur Europe1.fr, si vous nous suivez.
Oui, dans lequel on a une cabine, dans lequel on peut dormir, on peut déjeuner, on peut écouter de la musique, dans lequel on a un cockpit, où on peut prendre le petit déjeuner, des pontons sur lesquels on peut s'allonger, et puis à l'arrière des bateaux, qu'on ouvre pour faciliter le passage entre le bateau et la terrasse qu'il y a derrière. Un autre univers de plein air, donc ça fait une configuration qui est assez rare et qui est assez jolie et harmonieuse à regarder parce que quoi de mieux que des petits bateaux à poser au bord de l'eau, au bord d'un lac,
ou
dans la campagne.
Donc on est tranquille. Et donc vous parliez des salles de réunion, vous parliez de bateaux que vous pouvez poser, là on vous a demandé dans la montagne, mais vous avez aussi inventé un concept de croisière immobile.
Alors en fait, on appelle ça une croisière immobile.
On passe 10 jours sur un bateau qui ne bouge pas.
Pas 10 jours, c'est plutôt des séjours un peu plus courts, de quelques jours. C'est une expérience qu'on a envie de vivre. Et on appelle ça la croisière immobile. On dit que c'est pour tous ceux qui aiment le bateau, mais qui ont un problème avec l'eau. Il y a plus de 50% des gens en France qui ne sont pas à l'aise sur l'eau. Le mal de mer, vous avez cité. Donc aujourd'hui, ils ont navigué entre les mains des navigants pendant 40 ans. Et ben, on les passe aux non-navigants pour qu'ils en profitent aussi.
Pierre, je crois que ça vous inspire.
Ah oui, ça, mais c'est génial. Mais j'imagine toutes les collectivités qui vous entendent et qui vous disent, qui sont en train de se dire là, mais j'en veux un.
Chaque collectivité son bateau.
Ouais, j'en veux un sur mon petit lac, j'en veux un au bord de ma rivière, j'en veux un parce que ça crée une touche effectivement. Et je voulais savoir, vous, est-ce que vous les, vu d'une collectivité, vous vendez l'objet? Ou est-ce que vous êtes en mesure d'offrir une prestation globale de conciergerie, de gestion
Alors, vous avez souligné qu'on était de l'économie sociale et solidaire. La gestion des déchets, c'est l'économie circulaire du réemploi. Pour que ça marche vraiment, une économie circulaire, il faut créer un écosystème de partenaires publics, privés et associatifs qui, ensemble, décident de créer de la valeur soutenable économique, sociale et environnementale. Donc c'est vrai que chacun peut s'y retrouver. Je trouve que c'est même plus que jamais aujourd'hui un système intéressant. Et les collectivités, par exemple, qui peuvent mettre à disposition un terrain en bord d'eau, une association locale qui va jouer la conciergerie de l'ESS, et puis bateaux ou même une structure installée pour rénover les bateaux localement, peut tirer de tout ça les avantages et les bénéfices de ces valeurs soutenables que j'ai citées.
Fantastique.
Ça ferait venir des touristes. Donc tout ça, ce serait un cercle virtueux. Mais ça coûte combien ?
Alors, un bateau, aujourd'hui, dans l'économie circulaire, on fait plutôt ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire on vend un usage et un bouquet de services, parce que comme ça, on va aussi gérer le déchet à la fin de sa fin de vie, même si elle est nouvelle. Un bateau, ça coûte aujourd'hui, si on le vendait sec, entre 10 000 et 30 000 euros, livré, installé. Ça dépend des équipements, chaque bateau est unique. Ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de la distance qu'on a à parcourir pour aller le poser. Plus c'est posé près de chez nous, moins cher ça coûte en transport, par exemple. Notre approvisionnement, par exemple, on veille, nous, à choper des bateaux qui sont à moins de 60 km de notre site de production pour réduire les impacts du transport.
Aurélien, vous avez une question à poser.
Mais c'était savoir notamment si on loue, entre guillemets, son bateau, on est seul à bord. Est-ce que c'est différents espaces? Ça dépend, c'est modulable, comment...
C'est toujours à peu près 4 places au minimum, 4 à 6 places en couchage.
C'est équipage personnel.
Me disait, ça me fait penser aux petits hôtels qu'on avait devant les portes de plaisance de 10 chambres. Alors dans 10 chambres, on met 20 personnes, mais dans un bateau, par définition, et c'est même l'intérêt de cet hébergement, on en met 4. Donc on met 4 à 6 personnes par bateau, on peut cloisonner, on peut ouvrir comme un loft, on peut passer une nuit à bord comme un équipage, on sera content la journée, vous voyez, il y a tout ça et ça chacun peut faire comme il veut.
Et puis tout va bien, hein, puisqu'en plus de ça, vous êtes nominé au prix de l'innovation du tourisme 2020, donc la vie
croisons
est belle en
lois.
Ce moment.
Croisons les doigts, attendez, on n'a pas encore gagné, mais les prix c'est bien. Je trouve que les systèmes qu'on essaie de proposer, nous les acteurs, les entrepreneurs sociaux, je dirais, on mérite aujourd'hui d'être poussé.
Bien sûr, et d'être mis en avant. Vous êtes rempli là pour cet été ?
Alors, on a perdu beaucoup de commandes avant la crise du coronavirus, qui étaient tous les campings qui nous commandaient des bateaux. Ouais. Donc, on relance la machine par des choses étonnantes. Parce que, par exemple, on isole nos bateaux. On cherchait un enduit liège pour les isoler de la température et qu'ils soient confortables. On n'en trouvait pas qu'ils ne soient pas blindés de polluants. On a inventé le nôtre. Et on s'aperçoit que ça intéresse des tas de gens, ceux qui font les vannes, etc. Ça s'appelle
Soliège.
Et on est en train de gagner de l'argent en ce moment pour notre projet bateau en vendant du liège à des gens qui recherchent un enduit facile à poser qui soit
le pivot du start-upper.
C'est le pivot du start-upper.
De l'économie sociale
et
solidaire.
Mais là, on n'y avait pas pensé. Au départ, c'était pour nous le projet. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais c'est ça l'entrepreneuriat, hein, Pierre.
Absolument.
C'est, on part d'une idée.
Le rebond dont vous parliez.
Et vous
tout
êtes
à l'heure.
Dans le rebond dont on parlait tout à l'heure. Alors après le bateau, tiens, si on allait dormir dans un parc, comme si vous étiez dans un parc d'Afrique du Sud, sauf que là, vous n'avez pas besoin de faire des heures et des heures d'avion, vous êtes à Sainte-Croix, en Lorraine. Bonjour, Laurent Singer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le co-directeur du parc animalier Sainte-Croix. Le parc a fêté ses 40 ans cette année. D'abord, c'est une histoire de famille, hein, parce que votre papa, c'est un féru d'animaux. Et il y a 30 ans, vous avez récupéré le parc avec votre frère. Et une dizaine d'années après, vous vous êtes dit, mais ça ne va pas être seulement un parc, on va créer aussi des hébergements à l'intérieur de ce parc, c'est ça ?
Oui, c'est un lieu d'éducation, de sensibilisation à l'environnement qui est axé sur les grands espaces et la pédagogie, sur plus de 120 hectares. Et donc, on accueille depuis longtemps de nombreux groupes scolaires et de nombreux visiteurs jour. Et on s'est posé la question, il y a une quinzaine d'années, de voir comment on pouvait faire partager notre expérience de dormir sur le site du parc, parce qu'on y a toujours vécu, dormi dans cette ancienne exploitation agricole. Et donc, il nous est venu l'idée d'ouvrir un hôtel, mais finalement, c'est une idée très conventionnelle. Et quand il y a 10 ans, il y a vraiment un mouvement de masse vers l'hébergement insolite, ça nous a ouvert beaucoup de perspectives et d'idées nouvelles, et d'être le premier parc pouvant accueillir nos visiteurs, non pas uniquement sur la journée, mais sur l'ensemble de 24 heures, en vivant des expériences vraiment très originales.
Alors, des expériences très originales, il y a de quoi d'insolite votre logement dans le parc animalier Sainte-Croix? C'est quoi? Ce sont des lodges? On a l'impression d'être en pleine nature lodges. Au milieu des animaux,
vous parlez de l'Afrique du Sud, ça nous parle beaucoup. Donc le premier défi était de trouver des lieux d'intégration dans la nature en respectant le milieu et le bien-être de nos animaux. Et donc on a créé différents univers totalement intégrés aux espaces de vie des animaux.
Mais quel univers?
On a par exemple dormir avec les loups. Donc on a un certain nombre
d'énergies.
Oui, des vrais loups, à chaque fois une meute avec laquelle on peut partager leur intimité.
Mais on est où, nous? On est avec eux? On prend le petit-déj avec eux? Ça se passe comment?
C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a intégré dans leur espace de vie un hébergement en général en bois. Mmh. On a une vraie amour de la construction en bois et de toutes les problématiques évoquées dans toutes les problématiques écologiques. Et donc, on est sur un hébergement d'une centaine de mètres carrés, face à face avec les loups. Et à la fois pour les observer, et l'ensemble de la nuit est très agité.
Mais comment on dort avec des loups?
Alors, on ne pose plus cette question aux gens: est-ce que vous avez bien dormi?
Ouais.
On leur demande s'ils ont passé un moment exceptionnel.
Mais c'est quoi? L'idée, c'est quoi? C'est de tester sa résistance à la peur? C'est quoi?
C'est évidemment de profiter à chaque fois de la présence de notre visiteur et du temps qu'il nous consacre pour faire de la pédagogie et sortir du concept le grand méchant loup et bien expliquer la vie des animaux, de la meute, son fonctionnement, comment ils peuvent cohabiter avec des troupeaux de moutons.
Arrive à dormir quand on est comme ça dans un hébergement avec des loups pendant toute une nuit, très sérieusement?
Ils sont très confortables, mais on est là surtout pour partager le plus de temps possible avec eux, les observer, les voir dans leur vie intime. Actuellement, il y a
c'est vraiment insolite, hein, pour le coup.
Mais voilà. Du coup, j'ose pas imaginer le pavillon aux ours ou la cabane aux serpents, c'est quoi?
Ah ouais, les serpents.
Ah oui, on est dans trois univers, enfin on est dans cinq univers différents. On est sur la grande plaine des cerfs qui fait 50 hectares, où on est en plein milieu de prairies, d'étangs et de forêts, où on peut observer nos grands arbres de cerfs. On est dans l'univers des cabanes au champ des loups, et vraiment en hauteur, au plus proche possible de la cime des arbres. On a des lodges de la rivière des Ours Noirs, qui sont des maisons sur pilotis, qui ont leurs pieds dans la rivière, où se baignent les ours qui cohabitent, notamment avec des coyotes, avec des bisons, avec l'ensemble de la faune nord-américaine.
Ça fait plaisir, dire. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Dites-nous.
Et si on vous vendait un bateau, qu'est-ce que vous en penseriez? J'ai en face de moi quelqu'un de très sympathique qui vend pour pas très cher, finalement, à peine 10 000 euros, m'a-t-on dit.
Surtout, éco-conçu, aucune construction au sol pour pouvoir fonctionner.
Et on met les loups à
les crocodiles. Pas terrassement, respect total de l'environnement.
Ça me parle, comme on est le premier parc européen à être écolabellisé depuis cette année. On est au pays des étangs qui va avoir probablement un classement UNESCO. Pourquoi pas un bateau, avec grand plaisir.
Parlez-vous, c'est fait pour ça, la France bouge, c'est pour créer des synergies avec vous, entrepreneurs. Je me tourne vers Aurélien. Aurélien, on vient de l'entendre, hein, le parc animalier de Sainte-Croix est labellisé, et justement ces hébergements insolites qui se développent. Il y a un label qui a été créé spécialement pour eux.
Exactement, ça s'appelle Hôtes Insolites. Il a été d'abord lancé en Haute-Marne, mais c'est un label qui ne concerne pas uniquement les hébergements qui sortent de l'ordinaire dans ce département. Il existe depuis le 25 mai dernier et il peut être attribué partout en France, métropole comme Dom-Tom. Il y a deux types d'offres avec la mention nature pour les offres de retour au vert et puis une autre avec la mention bien-être avec un petit peu plus d'équipement de confort. Et donc ce label Hôtes Insolites propose aussi formation et accompagnement à ceux qui souhaitent se lancer.
Ça s'appelle Bateau. Merci à vous, Didier Toquet. Vous nous avez donné envie de faire du bateau comme ça, avec tout ce que vous nous avez proposé, sans avoir le mal de mer et vivre une expérience insolite. Et merci à vous, Laurent Singer. Vous êtes le co-directeur du parc animalier Sainte-Croix. Merci à vous.
Europe 1.
Vous faites de la randonnée, vous avez envie de faire une halte pour la nuit. Eh bien, figurez-vous que l'équipe de La France Bouge vous a trouvé des cabanes disposées environ tous les 20 km afin de combler les zones blanches. On va les découvrir. À tout de suite.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Et nous voyageons différemment cet été. Nous partons à la découverte des hébergements insolites. C'est le dossier du jour dans La France Bouge. Nous sommes avec notre coach du jour, Pierre Pézziardi, et Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Alors, découvrir le paysage français, encourager les gens à refaire de la randonnée, ça passe aussi par la question de l'hébergement. Il y a de moins en moins de refuges qui ne sont pas forcément tous éco-responsables. Ainsi sont nées les cabanes rando. Bonjour Yves Poulain.
Bonjour Elisabeth, merci de votre invitation.
Mais merci à vous, vous êtes le fondateur d'Hello Cabane qui propose, vous proposez les cabanes rando. Ce sont des petites cabanes d'étape qui nous permettent de passer la nuit pour reprendre des forces, parce que quand on est en randonnée le soir, on a envie de bien dormir dans un environnement confortable. Là, votre entreprise existe depuis 2 ans et ces cabanes, on peut les trouver un peu partout, en Saône-et-Loire, en Mayenne, en Bretagne, en Normandie ou encore en Loire-Atlantique.
Oui, tout à fait.
Comment
je vais vous raconter comment j'ai trouvé que sur des itinéraires.
Oui, parce que vous êtes bien un passionné de rando, il faut le dire.
Ah, tout à fait. Ça fait plusieurs années que j'en fais. Et je me suis rendu compte qu'il y a des itinéraires très fréquentés parce qu'il y a de l'hébergement. Et puis, dès qu'il n'y a plus d'offres pour dormir à la nuitée, parce que c'est ça, qu'on est itinérant, il faut changer de...
On peut voir vos cabanes en direct là, sur europe1.fr. Elles sont magnifiques. Voilà, parenthèse fermée, je vous laisse poursuivre.
Hello cabane, ouais. Et donc, quand vous partez en itinérance, il faut changer chaque soir d'hébergement. Et vous avez des secteurs où c'est très bien fourni, puis il y a d'autres secteurs où il n'y a rien.
Oui, ces fameuses zones blanches que vous avez nommées ainsi.
Voilà, et ça veut dire que dès qu'on ne trouve plus de quoi dormir, eh bien, c'est la fréquentation qui s'arrête, et au détriment des retombées économiques des territoires ruraux qui ne peuvent pas accueillir.
Ouais, et ça peut décourager certains qui aiment faire de la rando, et finalement, ils se disent « bon, je vais pas pouvoir me reposer, donc je laisse tomber ». Et donc, quand il n'y a plus d'hébergement, les visiteurs viennent moins, et ça fait moins rentrée d'argent aussi pour les communes, c'est important ça.
Ah, c'est très important. Des études ont été faites par le ministère de l'économie qui montrent que les touristes itinérants consomment 30 à 40% de plus que des touristes traditionnels. Ça veut dire que quand on a des étapes tous les 20 km, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, eh bien, tous les 20 km, c'est presque 300 000 euros de retombées économiques par étape qui sait accueillir, qui sait proposer de l'hébergement. 300 000 euros par étape, ça vaut le coup de s'en tracasser. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui manque dans les territoires ruraux, les communes rurales qui n'ont pas beaucoup de manœuvres, comment on peut les aider à trouver une solution pour accueillir, attirer les randonneurs?
Alors, vous pouvez nous les décrire, vos cabanes, pour ceux qui n'ont pas regardé, elles sont françaises, elles sont faites de bois, décrivez-les-nous.
Et elles sont fabriquées par entreprise d'insertion, pareil que Bateau. Bonjour à Didier en passant. Et elles ont d'abord été conçues pour que ça soit facile à installer par des communes
Bonjour
rurales.
Yves.
Donc elles n'ont pas de fondation. Elles peuvent donc être déplacées sans impact du sol si on veut changer un endroit. Et elles sont faites avec du matériau bois pour que ça soit très très facile à nettoyer, parce que les communes qui n'ont pas de personnes pour entretenir, on ne peut pas mettre du personnel à demeure. Donc il faut faciliter les communes, faciliter les campings pour qu'il y ait un accueil réellement à la nuitée. Et la conception, elle est surtout faite comme ça.
Pierre Plaisir, ça coche toutes les cases, hein, tout ce que vous aimez. Hein. C'est fabriqué par des personnes qui sont en réinsertion, c'est en bois, ça va dans les communes, entre guillemets, un peu désertes, hein, ces fameuses zones blanches.
Ça soutient l'économie locale.
Et
c'est une vraie, je partage votre constat, effectivement, là, les grands itinéraires. Moi, j'ai fait la grande traversée du Jura, que je conseille à tout le monde, et balisée, effectivement, de gîtes d'étape. Et venir combler ce problème de couvrir la France de gîtes d'étape dans les endroits où il y a des très belles randonnées à faire, c'est fantastique. Je voulais savoir, si je suis toujours du point de vue de la collectivité, qu'est-ce que vous offrez ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle, elle n'aura pas un frein d'acquérir ce genre de dispositif pour avoir à le gérer ensuite ? Est-ce qu'il y a des facilités dans la gestion ? Vous parliez de simplifier le ménage. Comment on fait la conciergerie, les clés, tout ça, quand on est en randonnée ?
Alors, au niveau entretien, la première année, on a des communes qui ont testé, moins de 5 minutes après chaque nuitée, alors que d'autres hébergements, on est pratiquement à un quart d'heure, là, moins de 5 minutes. Au niveau des clés, des conciergeries, il y a un système de serrure à code qui est proposé, ce qui fait qu'à la réservation, paiement de la location, eh bien, vous recevez un code qui vous permet d'entrer dans la cabane, eh bien, à n'importe quelle l'heure de la fin d'après-midi, même de la soirée, et ce qui vous permet d'avoir un imprévu sur la route, de traîner à boire une bière entre copains ou profiter du restaurant et des produits locaux.
Et ça coûte combien si j'ai envie de dormir dans une de vos cabanes ?
Alors, les tarifs de location sont libres des gestionnaires,
vous vendez à la commune. Donc, vous vendez ça 9 500 euros entièrement monté à la commune.
C'est entièrement monté, équipé, il y a les 3 couchages, facile à nettoyer. Même avec les aspects d'hygiène de Covid, ça se nettoie très facilement. Il y a un coin repas. Il y a surtout l'innovation que l'on trouve pas par ailleurs, c'est une bagagerie. Et dans la bagagerie, vous arrivez avec vos sacs à dos, votre vélo, vous rentrez les 3 vélos à l'intérieur. S'il pleut, vos affaires sont à l'abri. La nuit, vous pouvez les recharger si vous êtes en vélo électrique. Et surtout le lendemain matin, vous êtes sûr qu'ils sont là pour repartir.
Bien sûr. Donc vous cherchez à favoriser ce tourisme itinérant. Aurélien, il y a d'autres entreprises qui se sont lancées sur ce marché pour dormir dans une cabane. Mais là, vous en avez trouvé une, c'est pas pour s'y installer plusieurs nuits, mais plutôt juste pour faire une petite pause.
Oui, voilà, ça s'appelle tout simplement la cabane étape, en un seul mot, un hébergement unique qui peut accueillir 2 personnes, situé à la frontière entre la Manche et le Calvados. C'est le maire de la commune de Tessy-Bocage dans la Manche qui a eu l'idée de l'installer à destination, là aussi, des randonneurs, mais aussi des cyclistes qui sont de passage dans la région. Petite, fonctionnelle, fabriquée en Ille-et-Vilaine, 20 euros la nuit au sein du camping des Bords de Vire. Et puis, si l'expérience est concluante, d'autres cabanes étapes verront le jour.
Merci en tout cas, merci à vous Yves Poulin. Vous nous avez bien fait rêver avec vos cabanes en bois. On va aller un peu plus loin dans l'expérience. Si vous alliez dormir sur une falaise, non mais c'est très sérieux, ça vous tente ? Autour de la table. Là.
Ça me fait peur, moi.
Il va falloir me convaincre.
Hein. Mais on va vous convaincre. C'est l'objectif. Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif de Inax Aventure. Bonjour, Guillaume Avrizani.
Et bonjour, merci de me recevoir.
Mais on est ravis, parce que franchement, vous suscitez la curiosité de tout le monde. Oui. Inax Aventure, ça existe depuis 6 ans. Vous êtes un grand voyageur, vous pratiquez l'escalade, on s'en doute. Vous avez fait énormément d'expéditions dans le monde, Alaska, Pérou, Groenland. Et vous avez toujours été à la recherche de grands murs verticaux, non, c'est très sérieux, pour pouvoir y passer quelques jours.
Oui, exactement. Oui, le but que j'avais à l'époque avec mon ami Philippe Batou, qui est guide de haute montagne aussi, c'était de parcourir la falaise la plus longue possible, mais verticale. Il y en a, plus c'était vertical et plus
ça
on
vous
aimait
plaisait.
Ça.
Alors nous, je vous avoue, on ne comprend pas très bien. Donc vous allez nous expliquer, c'est quoi une expédition sur une falaise verticale ? Qu'est-ce que vous proposez avec Inax Aventure ?
Pour reprendre un petit peu l'historique, donc pendant une quinzaine d'années, nous, on a fait énormément de voies d'escalade partout dans le monde, dans des grands big walls, ce qu'on appelle des grands murs, où il fallait entre 2 et 10 jours pour arriver au sommet de la paroi. Donc de là, si vous voulez, on a besoin de vivre complètement dans la paroi, d'avoir une espèce de structure qui s'appelle portal edge. Il y en a certains qui l'appellent tente de paroi.
Et c'est une sorte d'armature en aluminium, c'est ça ?
C'est une sorte, voilà, exactement. Il y a plusieurs fabricants qui font ça. C'est une structure avec des tubes métalliques qui se montent en pleine paroi. Et puis, c'est relié avec des tissus cousus et puis des sangles. Une sangle unique qui s'attache sur la falaise.
Donc, il y a un système d'attache qui est relié à un point au sommet. Et chaque personne qui grimpe se pose sur le lit suspendu, c'est ça ? Il est aussi attaché en haut de la falaise. Je résume un peu, mais c'est ça.
Et exactement, le soir, on met en place ça le soir. Imaginons qu'on grimpe 200 mètres dans la journée, si c'est difficile. En fin de journée, juste avant la nuit, ou des fois, si on est pris par le temps, on va mettre en place ce lit suspendu. C'est vraiment un lit suspendu.
C'est ça, mais je vous invite tous à aller voir le site d'Inax Aventure. Nous, on l'a regardé en préparant l'émission. C'est impressionnant. On se demande comment on peut arriver à faire ça, parce que tout le monde dort avec son baudrier suspendu.
Exactement. L'idée, c'est quand même d'être relié à la falaise, même quand on dort. Donc, on a une espèce de longe qui sort du duvet et qui est reliée à la falaise. De manière à... Souvent, j'ai souvenir que des fois, le matin, je me réveillais, je ne savais plus où j'étais, forcément.
C'est ça, quand on se réveille...
En tournant un petit peu la tête sur le côté, je me dis « Ah oui, je suis là, c'est vrai, il y a 600 mètres de vide en dessous. » Donc, du coup, c'est mieux d'être attaché, quand même. Et alors, c'était tellement une passion que je me suis dit que c'était vraiment intéressant de faire vivre ça aux gens qui sont complètement novices de l'escalade. Mon idée, c'était de leur faire vivre...
Si on est novice, on monte comment
Ça, attendez, j'y arrive.
Mais allez-y, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. On aimerait parler avec vous, mais Nathalie Carré nous attend déjà, là.
Alors, il monte. Là, pour faciliter l'ascension, on arrive par un petit sentier au sommet de la falaise. Mmh. Et l'idée, c'est de descendre en rappel et de s'arrêter en plein milieu de la paroi. Voilà. D'accord. Et de là, on va faire notre campement. Et les gens vont pouvoir donc dîner sur le porte-à-l'aide. Je leur prépare soit la fondue, soit avec un petit gastro avec le père Bise, qui est très sympa, qui nous prépare tout ça. Et on dîne sur le porte-à-l'aide avec la vue au-dessus du lac d'Annecy. Ah, et le soir, c'est couché à la belle étoile, avec des millions d'étoiles au-dessus de la tête plutôt. Et les gens dorment très bien. Ils sont un petit peu surpris les 15 premières minutes parce qu'ils se demandent si ça va tenir. Et au bout de 15-20 minutes, tout le monde a pris un peu confiance au matériel, s'est familiarisé avec l'élément.
Mais pardon, question juste pratique, on fait comment pour ceux qui ont envie d'aller aux toilettes?
Ah oui, la bonne question. Alors, dans nos grands big walls, on utilise ce qu'on appelle des sheet tubes. C'est des tubes hermétiques qu'on emmène et qu'on redescend et pour pas qu'on laisse de déchets dans la nature et sur les parois. Donc aujourd'hui, pour vraiment les novices, on a installé un petit toilette sèche, qui est sur un petit replat. Alors, il faut prendre 20 minutes. Ça prend 20 minutes quand on est aux toilettes. Donc, entre le moment où vous décidez d'y aller et puis le moment où vous arrivez vraiment, il faut anticiper un petit peu. Mais en revanche, derrière, vous avez une des vues les plus magnifiques au-dessus de la d'Annecy pour être aux toilettes.
Non, mais allez voir le site Inax Aventure. Pierre.
Oui, je ne sais pas si je vais convaincre mon épouse de participer. En revanche, pour me convaincre, moi, vous offriez donc l'apéro et on dîne quand même, on mange.
Ah, vous, il n'y a que ça qui vous intéresse. C'est pas dîner sur l'apéro.
Excuse-moi.
Je suis un contemplatif.
Oui, complètement.
Il faut manger.
Alors, c'est vraiment une expérience. L'idée, c'est de ne pas avoir peur. C'est que les gens prennent du plaisir et vivent vraiment l'expérience jusqu'au bout. Si vous voulez, quand vous êtes dans la falaise, vous êtes avec l'élément, vous oubliez un peu les soucis, on va dire, physiquement et mentalement, parce que vous êtes perché. Donc, vous laissez tout ce qui est en bas et ça permet de vivre vraiment l'instant présent. Donc, c'était assez, comment dire, important d'agrémenter ça avec des produits locaux. Donc, c'est pour ça que... Tout ce qui est dîner, c'est vraiment... vous allez voir, vous régalerez si vous voulez.
Vous êtes convaincus, on va y aller. Merci à vous, merci à tous les quatre d'être venus nous faire rêver, de tenter des choses impossibles, mais accessibles. Et c'est ça, la vie d'entrepreneur.
Europe 1.
Restez avec nous, vous avez une entreprise qui rencontre des difficultés. L'équipe de La France Bouge est là avec CCI France. À tout de suite.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Nathalie Carré, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Nathalie de CCI France qui chaque jour donne des conseils et des directions à prendre si vous avez une entreprise qui rencontre des difficultés. Aujourd'hui c'est Ludicolearn, bonjour Denis Reclus.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous, vous proposez des ateliers ludo-éducatifs avec des Lego pour les enfants qui ont entre 3 et 13 ans. C'est destiné au milieu scolaire et au milieu périscolaire. Mais le problème, c'est que vous avez créé votre entreprise le 5 mars, c'est-à-dire une dizaine de jours avant le début du confinement. Donc, pas de salaire, vous n'avez pas droit à des aides et c'est pour ça que vous nous avez contactés.
Tout à fait, on n'a droit à aucune aide et je devais commencer pour les vacances d'avril, commencer mes ateliers. Voilà, c'est les vacances scolaires sont forcément des pics, est-ce que c'est le scolaire, le périscolaire et aussi hors scolaire, voilà. Et puis on veut des anniversaires, donc tous les marchés sont un peu bloqués parce que c'est ton anniversaire en ce moment, c'est compliqué.
Alors Nathalie Carré, je crois qu'elle a... Vous, votre question c'est quoi? S'il y a... Vous avez besoin de quoi?
Donc en fait, pour accéder au marché périscolaire, notamment pour des grandes villes comme Reims, il faut passer par des marchés publics qui sont très codifiés. Donc l'une de mes questions, c'était de savoir s'il pouvait être prévu un allègement de
ces règles provisoires
d'accès au marché public, voilà, pour aider les entreprises justement.
Nathalie.
Alors, et puis je vous enverrai le reste par mail parce qu'on est un peu pressé ce midi. En fait, les règles de marché public prévoient déjà, n'excluent absolument pas les nouvelles entreprises. En revanche, c'est l'obligation des acheteurs publics de contrôler vos garanties professionnelles, techniques et financières. Donc, le fait que vous n'ayez pas encore démarré ou que vous n'ayez pas de bilan n'est pas un frein. C'est prévu effectivement par le code des marchés publics. En revanche, vous devez leur prouver que vous êtes en capacité d'assurer le marché, d'exécuter le marché. Donc, la meilleure façon de procéder, c'est en fait de vous faire connaître, puisqu'on a parfaitement le droit, l'acheteur public a le droit de sourcer, c'est-à-dire d'aller rencontrer des prestataires. Donc vous avez intérêt de vous faire connaître auprès des services jeunesse. Et puis, sachez quand même, je ne connais pas le prix de vos prestations, que en dessous de 40 000 euros hors taxes, on n'est pas sur un marché public important, on est sur un marché de gré à gré. Donc il y a beaucoup moins de contraintes. Donc ça vaut le coup donc d'aller se présenter, de se faire connaître, de démontrer sa capacité à faire. Mmh. Et puis vous êtes peut-être en dessous de 40 000 euros.
Nathalie,
et puis dernier
point
sur ce sujet.
Vous allez donner toutes les indications.
On est très pressé ce midi.
En plus on a un nouveau premier ministre, on a Jean Castex, donc Marguerite Lefebvre est déjà installée. Merci, merci à vous. Nathalie va vous donner tous les détails, Denis Reclus, pour pouvoir relever la tête de votre entreprise Ludicofarm. Merci à vous, Aurélien Fleureau.
Merci Elisabeth.
Pierre Pézierdi, le mot de la fin.
Merci Elisabeth m'inviter dans
cette
émission
où
finalement dans cette ambiance de déclinisme, de colère généralisée, d'attentisme face à l'État et ce nouveau Premier ministre. Ici, c'est tous les jours le triomphe du génie humain.
Eh ben, on est ravis en tout cas, vous êtes le bienvenu et c'est la fin donc de votre émission. On se retrouve lundi, on parlera de l'essor du troc après la crise. Europe 1, il est 14h.